Bonsoir et merci à nouveau d'être là. Donc pourquoi on a choisi ce thème ce soir? Pourquoi on a voulu vous faire connaître davantage la justice des mineurs? La première raison, c'est que cette justice est méconnue dans notre pays, alors qu'elle est, si elle n'est enviée dans d'autres pays qui envient ce système de justice. Nous avons choisi aussi ce thème parce que nous fêtons cette année les 70 ans de l'ordonnance de 45 qui institue cette justice spécifique et qu'il est question, 70 ans après, de la réformer, de la toiletter, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc on va voir ce qu'elle a comme spécificité, en quoi elle a été novatrice, en quoi elle le reste. Pourquoi elle a besoin d'être toilettée? Est-ce qu'elle est efficace? Entrave-t-elle ou non la récidive? C'est toutes ces questions que nos deux grands témoins vont aborder ce soir. Nous avons la chance de recevoir deux militants, si j'ose dire, de la justice des mineurs. Madame Marie-Pierre Ourcade est magistrate, présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille et vice-présidente du... Non. Bon, vous direz vous-même le titre exact aujourd'hui. Voilà. Et Pierre Jox, que vous connaissez ici, ancien ministre, ancien président de la Cour des comptes, de la Cour de cassation, et qui est aujourd'hui avocat au barreau de Paris et auteur de ce « Pas de quartier ». Délinquance juvénile et justice des mineurs, et qui donc s'est emparée de ce sujet. Donc vraiment, je leur suis très reconnaissante, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils ont des agendas chargés, comme beaucoup d'entre nous, et qu'ils ont accepté de venir nous parler de cette justice des mineurs. Donc dans un premier temps, Pierre Jox va nous brosser un tableau et nous dire ce qu'il a à nous en dire. Puis Marie-Pierre Ourcade reviendra sur ce qu'est la justice des mineurs aujourd'hui, mais aussi surtout pourquoi il faut la réformer. Donc on va leur laisser la parole, et puis on aura, j'espère, un temps de questions après.
Si vous préférez, comme vous préférez. C'est ce qu'on avait dit,
Ah non, comme vous voulez.
Allez-y.
C'est vous qui êtes un peu la star ce soir, quand même. Donc, il faut peut-être commencer.
Voilà bien une façon de me mettre à l'aise, de dire que je suis un peu la star. Alors, je vais stariser Madame Ourcade, car c'est elle qui m'a appris, je dirais pas ce métier, mais cette fonction, quand je suis devenu très jeune avocat des mineurs au tribunal pour enfants, comme débutant, un peu tardif, j'ai eu affaire à elle, parmi d'autres. D'abord, vous dire que c'est un peu intimidant de parler ici, parce que moi, j'étais habitué ici à écouter. Et je me rends compte que la sonorisation a été faite pour ceux qui parlent de là-haut. Vous m'entendez? Ah bon. Alors je continue. Il y a une réverbération spectaculaire qui pourrait pousser à des débordements d'éloquence. L'oratoire, c'est un lieu auquel ma famille est très liée. Mais alors, parler dans ces conditions, c'est un peu difficile. Et être traité de star, c'est encore pire. Alors que c'est le contraire. Toute ma vie, j'étais magistrat, mais dans une magistrature un peu particulière. J'étais conseiller à la Cour des comptes, puis président de la Cour des comptes. C'est très tardivement que je suis entré au Conseil constitutionnel. J'étais nommé au Conseil constitutionnel. Et c'est là que j'ai découvert avec stupeur une série de lois en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 qui les unes après les autres portaient atteinte, rabotaient, abîmaient, grignotait l'ordonnance du 2 février 1945 organisant la justice des mineurs en France dans des conditions extraordinaires. Pourquoi ? En février 1945, comme je ne suis pas le plus jeune ici, je pense que je suis sans doute un des plus vieux, mais quand même, un certain nombre d'entre vous se souviennent qu'en février 1945, c'était la guerre. C'était encore la guerre. Il y avait encore des rationnements de chauffage, de chaussures, d'alimentation, de cahiers. C'était la guerre. La guerre n'était pas finie. Paris était libéré, mais la France n'était pas entièrement libérée. La contre-offensive de von Rundstedt dans les Ardennes faisait peur. Moi, je me rappelle très bien, on a eu peur. On a cru que les Allemands allaient revenir. Et comment se fait-il qu'à cette époque-là, et très précisément le 2 février 1945, c'est-à-dire quelques jours après la contre-offensive dans les Ardennes, ce général de blindés, le général de Gaulle, signe une ordonnance, à l'époque une ordonnance, aujourd'hui une ordonnance dans le droit constitutionnel, c'est un type de texte législatif adopté par une procédure particulière. En 1945, il n'y a pas de constitution, il y a un gouvernement de fait, le gouvernement du général de Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française, et les ordonnances de l'époque, ce sont des textes législatifs d'origine, on peut dire, c'est un gouvernement de fait. La constitution de 1946 va être non sans difficulté votée en 1946, en 1945. C'est la guerre, il n'y a pas de constitution, il y a un gouvernement provisoire. Pourquoi est-ce que de Gaulle, ce général devenu chef du gouvernement, signe un texte qui organise quoi ? Les tribunaux pour enfants. Et je lis le début, les premiers mots de l'exposé des motifs, c'est-à-dire de l'introduction de l'ordonnance de Gaulle, je vous la lis. « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Il y a l'écho de deux choses dans ce texte. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. C'est l'écho de l'angoisse des politiques natalistes de l'entre-deux-guerres. La Première Guerre mondiale, il y avait eu tellement de morts que pendant l'entre-deux-guerres, l'idée qu'il fallait repeupler la France, qu'il fallait des enfants, on en trouve l'écho en 1945, la Deuxième Guerre mondiale est finie, et la France se demande, la France ne sait pas encore qu'il va y avoir le baby-boom. Tout enfant est précieux. Et cette ordonnance de Gaulle dit, la France n'est pas assez riche pour avoir négligé tout ce qui peut faire des enfants, des êtres sains. Mais la première phrase est la plus importante sur le plan philosophique. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. Donc, ce général de blindés, chef d'un gouvernement provisoire, place la justice des mineurs comme une politique de protection de l'enfance. Il place la justice des mineurs qui peut s'occuper de placer les enfants, mais aussi de les condamner, de les placer en prison, de leur infliger des peines, placées sous le thème de la protection de l'enfance. Et c'est fondamental parce que dans toute l'histoire de la justice concernant les mineurs, la problématique est la suivante. Depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, quand un enfant commet un délit, il faut punir le délit sans doute, mais est-ce qu'il ne faut pas avant tout réformer, éduquer, s'occuper du délinquant ? Est-ce que d'ailleurs c'est un délinquant, cet enfant qui commet un délit ou qui en a commis deux ou trois ? Ou est-ce que c'est un enfant qui a été abandonné, mal élevé, maltraité ? Et toute cette problématique de la justice des mineurs, paradoxalement, qui est née dans le Chicago de la fin du 19e siècle, rebondit dans le Paris, dans la France de la libération. Je dis que c'est né dans le Chicago de la fin du 19e siècle parce que la justice des mineurs, institutionnalisée, n'a pas existé avant le premier tribunal pour enfants qui a été créé dans le Chicago de 1896, qui était une ville barbare, sauvage, du capitalisme sauvage, ressemblant un peu au Rio de Janeiro d'aujourd'hui, où on tuait les enfants dans les rues, où il y avait des enfants abandonnés dans cette ville qui était une capitale de l'industrie, de toutes les migrations internes et internationales. Et il y avait des enfants dans les rues par milliers. Et ce sont des alliances de femmes protestantes qui, à Chicago, se sont indignées un jour, qui ont signé des pétitions, qui ont organisé des comités en disant c'est pas acceptable qu'on traite les enfants des rues affamés, abandonnés, et qu'on les juge comme des majeurs qui ont commis des crimes. Il faut autre chose, il faut que la justice qui s'applique aux mineurs s'occupe d'eux pour les élever, pour les remettre dans le droit chemin, pour les faire échapper à la délinquance et aux crimes. Et c'est à Chicago, donc tout à fait à la fin du 19e siècle, pour la première fois, un tribunal pour enfants, Juvenile Court, c'est encore un mot qui existe aux États-Unis, où j'ai été voir les lointains descendants de ces tribunaux pour enfants. Ce n'est pas un tribunal comme les autres. Ce n'est pas un tribunal qui va juger l'être qui a commis le délit. C'est un tribunal qui va juger les circonstances, qui va juger ce que l'on peut faire de bien pour cet enfant, ce qui va juger ce que l'on peut faire pour l'empêcher de devenir un vrai délinquant ou un vrai criminel. C'est un tribunal qui a une fonction, en effet, de protection. Protection contre qui, contre quoi? Contre la brutalité, contre la violence de la société du Chicago de l'époque. Violence de la rue, violence des gangs, violence de la police, violence de la société. Et c'est quelque chose qui a fait comme une traînée de poudre, c'est une image un peu. Mais à travers les États-Unis d'abord, vous savez que les États-Unis sont un État fédéral et que la justice aux États-Unis est très largement organisée dans chaque État. Vermont, New York, Oklahoma, Californie, Illinois, c'est dans l'Illinois, à Chicago, qu'a commencé la justice des mineurs. Et ça s'est répandu à travers les États-Unis, ça a traversé l'Atlantique, ça a traversé la Manche, dans toute l'Europe, à l'image du modèle américain à l'époque. À l'époque, c'était le modèle américain d'une justice pour les enfants, d'une justice d'un pays qui avait mis en cause les systèmes de justice. Vous savez que c'est aux États-Unis que Tocqueville avait été envoyé en mission en 1830 pour étudier le système judiciaire américain, le système pénitentiaire américain. Les États-Unis étaient à l'époque une terre d'expérimentation sociale. Et toute l'Europe va copier le Juvenile Court de Chicago, y compris en France, où en 1912, je me tourne vers mon ancien professeur, en 1912, en France, la loi qui crée le juge des enfants, le tribunal pour enfants, dans l'exposé des motifs, se dit il faut prendre l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Et ce phénomène est très important parce que ça s'est répandu dans toute l'Europe et dans les années de l'entre-deux-guerres. Et ensuite, pendant la guerre, la problématique de la construction d'un système judiciaire particulier pour les enfants va progressivement se cristalliser dans tous les pays, en Espagne, en Allemagne, moins en Angleterre, plus en Belgique, avec évidemment des hauts et des bas. Évidemment, dans l'Allemagne nazie, ou dans l'Italie fasciste, ou dans l'Espagne de Franco, toutes ces fariboles d'une justice pour les mineurs va être abandonnée, balayée, en faisant appel à la plus grande sévérité, même à la plus grande cruauté. Mais en France, à l'intérieur des discussions qui ont précédé la rédaction, la réflexion sur le programme du Conseil national de la Résistance, entre autres, il y a eu l'idée de fonder une justice des mineurs sur un certain nombre de principes qui avaient été fixés un demi-siècle plus tôt à Chicago, qui avaient été commencés à légiférer en France en 1912, qui s'étaient répandus à travers l'Europe et qui sont les principes suivants. La responsabilité des enfants lorsqu'ils commettent un délit ou même un crime n'est pas la même que celle des adultes. Qu'est-ce qu'un enfant? Pendant longtemps, la question était ouverte. Aujourd'hui, il y a une convention internationale des droits de l'enfant. Un enfant, c'est un être de moins de 18 ans. La responsabilité d'un enfant doit être considérée autrement. Son discernement, ses capacités, son environnement social et familial, ce qu'il a pu faire avant de commettre ce premier ou deuxième délit. Deuxièmement, pour apprécier cette responsabilité, ce ne sont pas des juges comme les autres, il faut des juges des enfants, des juges spécialisés dans des procédures particulières, des tribunaux spécialisés, des juges spécialisés, appliquant des règles spéciales, car le but de la justice des mineurs, du droit pénal des mineurs, n'est pas avant tout de sanctionner l'infraction, elle est avant tout d'éduquer et de redresser celui qui a commis une infraction. C'était vrai à Chicago à la fin du 19e siècle, c'est encore le problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on juge un enfant qui a commis un délit ? Ou deux ? Ou onze ? Ou 23, comme on en voit ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut en faire un homme ou une femme majeure qui ne commettra plus de délit. Donc la justice des mineurs, elle est particulièrement différente de la justice pénale classique qui a deux fonctions, de punir et de dissuader. Punir en enfermant, en condamnant, en travaux forcés pendant longtemps ou à peine de mort. Et de dissuader en montrant à ceux qui n'ont pas commis de délit ou de crime tout ce qu'ils risquent de subir. Autant le droit pénal est un droit avant tout de punition et de dissuasion, autant le, et ceci depuis l'Antiquité, autant le droit pénal des mineurs est avant tout un droit social, un droit faisant partie de l'éducation, un droit fondé sur l'avenir, sur la prise en considération du fait qu'un enfant, un adolescent de 14, 13, 14, 15, 16, 17 ans, n'a presque rien à voir avec un adulte, et que d'une certaine façon, si sa responsabilité personnelle peut et même doit être engagée dans les actes qu'il a commis, elle doit avant tout être éclairée par l'environnement dans lequel il a vécu et inspirée par l'idée qu'il a 14 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, et que le devoir de la société, c'est de lui permettre de devenir un homme ou une femme qui n'est pas un délinquant ou un criminel. Moi, j'ai découvert ça, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Lénart, le droit pénal des mineurs est peu connu. Pourquoi est-ce qu'il est peu connu ? Pour une bonne raison qui est aussi une mauvaise raison. Vous avez tous pu assister à un procès d'assises. Vous avez tous pu aller assister à un procès pénal en correctionnel. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez y aller demain matin, ou plutôt à 13h30. Au tribunal correctionnel, pas loin d'ici. Ou aux assises, il y en a tout le temps. À Paris ou à travers la France, n'importe où. Les procès pénaux sont publics. Vous pouvez assister à des procès criminels, à des procès de vol, à des malheureux qui ont commis des vols, des agressions, etc. Vous pouvez y aller. Sauf devant le tribunal pour enfants. Vous ne pouvez pas entrer au tribunal pour enfants. Enfin, vous pouvez entrer si vous êtes le mineur délinquant, je ne sais pas, vous êtes mineur, jeune homme ? Non, il est majeur. Bon, mais s'il était délinquant, il pourrait entrer. Qui peut entrer au tribunal pour enfants ? Les prévenus, garçons ou filles de moins de 18 ans, parfois de plus de 18 ans, puisqu'on est jugé au moment des faits, pour l'âge au moment des faits. Donc on voit des garçons de 19 ans, 20 ans. Les parents, les victimes, les témoins, les flics, les policiers, les éducateurs, les magistrats, bien sûr. Et la loi bizarre, l'ordonnance de dit les membres du barreau, pas seulement les avocats des parties. Non, bah, évidemment, les avocats de la victime, comme des mineurs délinquants, peuvent entrer. Non, les membres du barreau. Et moi, qui avais été très choqué par ce que j'avais vu au Conseil constitutionnel, contre lequel je m'étais vainement élevé, j'ai décidé, en quittant le Conseil constitutionnel, de m'inscrire au barreau. Comme magistrat en retraite, je pouvais m'inscrire au barreau sans formalité particulière. Et comme membre du barreau, je pouvais entrer au tribunal pour enfants. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre en stage auprès de moi-même, comme avocat stagiaire auprès de moi-même, et avec la bienveillante amitié de Marie-Pierre Ourcade, qui à l'époque était juge pour enfants, qui depuis a pris du galon, puisqu'elle est maintenant à la cour d'appel. mais pas seulement avec elle, avec d'autres aussi. J'ai assisté à des dizaines d'audiences à Paris, mais aussi à Créteil, à Bobigny, énormément, dans 15 villes de France, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, à Lille, à Bastia, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, à New York, dans le Vermont. Je suis donc un assez bon connaisseur et spectateur de la justice des mineurs à travers le monde démocratique, disons. Parce qu'évidemment, il y a des pays dans lesquels la justice des mineurs n'a pas cette qualité spéciale. Les enfants sont jugés comme des adultes, maltraités, s'il le faut. Et c'est comme ça que j'ai découvert quelque chose de très étonnant, à savoir que malgré les attaques contre les lois, la loi de 45, le système de justice des mineurs, fondamentalement social, éducatif, à l'écoute, prenant son temps, jugeant bien sûr les faits, mais examinant surtout les êtres vivants, les jeunes qui étaient en cause, était un modèle de fonctionnement social presque inconnu, puisque de même que la plupart d'entre vous ne peuvent pas entrer, aucun journaliste n'entre. Dans le Canard enchaîné ou dans Ouest France ou dans le Figaro, vous avez des chroniques judiciaires sur tout, des histoires de crimes, des vols, des cambriolages, des incestes, des choses les plus épouvantables. Pas sur la justice des mineurs, il n'en est pas rendu compte dans les journaux. D'où cette incroyable ignorance, qui n'est pas générale, dans certains pays, il y a une meilleure information. Et si j'ai fait ce livre, en effet, c'est parce que j'ai pensé qu'il fallait que la justice des mineurs telle qu'elle était, telle qu'elle demeurait encore malgré des lois malheureusement négative et régressive, était quelque chose de très important. Pas seulement du point de vue de la justice rendue et qui, en effet, doit sanctionner et punir, et dans certains cas, c'est vrai, parfois, incarcérer, mais très important vis-à-vis de l'avenir de la jeunesse. Parce que ce qu'on trouve devant les tribunaux pour enfants, dans l'immense majorité des cas, c'est quoi ? Des garçons, très peu de filles. La criminalité générale en France, comme dans tous les pays, c'est les hommes et pas les femmes. 95% d'hommes, 5% de femmes. 95% de garçons, 5% de filles. Ce sont des garçons. Un tiers, ce sont des garçons. Ils ont entre 13, 14, 15, 18 ans. Plutôt 15, 16, 17, 18 ans. Un tiers n'ont pas de père. Un tiers n'ont pas de père. Ils en ont sans doute eu un, mais il est inconnu, disparu, non enregistré, non reconnaissant, etc. Un autre tiers, correspondant aux catégories sociales les plus défavorisées, a un père qui n'est pas là, ou qui est ailleurs, ou qui est en prison, ou qui y a été, ou qui va y retourner, ou qui est au chômage, ou qui a été, ou qui va y retourner, ou tout ça à la fois, ou qui est malade, ou qui est très âgé, ou qui est polygame, ou qui... Et puis il y en a un tiers qui ont des pères plus ou moins acceptable, comme on essaye de l'être, mais c'est quand même une population très particulière. J'ajoute à cette caractéristique, c'est que plus de la moitié sont d'origine des catégories sociales les plus pauvres et les plus déshéritées, des quartiers les plus pauvres et les plus déshérités, et par conséquent appartiennent pour une grande majorité à ce qu'on appelle, par un euphémisme moderne assez charmant ou sinistre, les minorités visibles. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite à quelle minorité appartiennent ces garçons, surtout ces garçons, quelques filles, venant d'Afrique, du Maghreb, de différents pays qui sont des ex-colonies et qui appartiennent à ce qui a toujours été les catégories de la population dans lesquelles on trouvait le plus de délinquants, c'est-à-dire les émigrants récents. Il y a un siècle, les émigrants récents, c'était les bougnoules du Cantal, les petits Savoyards, les voyous de Breton, c'était les rôdeurs de barrières, les Apaches qu'on trouvait dans les faubourgs. Alors évidemment, c'était des bons petits Français. Mais c'était les quartiers les plus pauvres, c'était les catégories d'immigrés les plus récents. Aujourd'hui, eh bien, à travers la France, avec des différences notables, c'est-à-dire que la situation à Paris ou Boulogne n'est pas la même, ou à Bobigny, ou à Coutances, en Normandie, n'est pas la même, les populations sont différentes. Mais quand même, d'une façon générale, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Espagne, on trouve dans la population délinquante une majorité de gens d'origine récente, d'immigration récente, et on trouve parmi les jeunes qui sont de cette catégorie, des gosses qui sont majoritairement sans structure familiale, encore une fois, très souvent sans père. On dit souvent déscolarisé, mais moi je dis très souvent non scolarisé, parce qu'un enfant qui a passé les trois premières années de ses études a changé quatre fois d'école par an, il n'est pas déscolarisé, au bout d'un moment, il est non scolarisé. Et ce sont des cas sociaux dans l'immense majorité. Cas social, à quoi s'ajoute souvent un cas clinique. Beaucoup de ces enfants, de ces adolescents sont mal soignés, ils sont mal élevés, on va dire, oui, ils sont aussi mal soignés, mal nourris, ils ont des maladies physiques, physiologiques ou psychologiques. Et c'est donc une population très particulière d'enfants souffrants. Et comme le disait De Gaulle au fond en 1945, il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, oui, la justice des mineurs est une politique de protection de l'enfance contre elle-même, contre les abus de la société. Et dans cette découverte de ce travail que je fais à temps très partiel, j'ai beaucoup appris avec Marie-Pierre Ourcade, qui était donc juge des enfants jusqu'à ce qu'elle soit précipitée dans la hiérarchie magistrature vers la cour d'appel, où son travail doit être encore plus compliqué. Merci de votre attention.
Pardon. Merci beaucoup pour ce... Donc, merci beaucoup d'avoir brossé ce tableau et mis ce cadre. Maintenant, on comprend mieux d'où vient la justice des mineurs. Et donc, Marie-Pierre Ourcade va nous parler un peu de comment elle fonctionne.
Très bien. Alors, bonsoir à tous. Je vais essayer de maîtriser ce micro. Ça n'a pas l'air simple. Hein, voilà, comme ça. Bierjocks a très bien décrit l'histoire de la justice des mineurs, d'où elle vient et quelle est la spécificité de cette justice. Donc, je n'y reviendrai pas, mais je ne pourrai pas manquer d'en parler un peu au détour de mon propos. Et puis, je voulais vous dire, avant quand même de démarrer mon intervention, que je dois dire que Bierjocks est très modeste, mais c'est aussi un excellent avocat des mineurs. Il est pugnace, il connaît le droit, pugnace, il va en prison et il accompagne le jeune à côté des éducateurs. Il est vraiment tout à fait formidable. Je voulais vous le dire parce qu'il faut bien se dire les choses de temps en temps. Et c'est vrai que c'était un grand bonheur d'avoir ce grand monsieur à côté de moi dans mon cabinet et qui observait de façon très, très attentive. Ah oui, je ne suis pas douée. Hein. Observait de façon très attentive tout ce qui se passait. Et lorsqu'on a un observateur de qualité comme M. Jocks, eh bien, ça nous renvoie les choses positives et puis parfois les insuffisances et ça fait réfléchir sur nos pratiques. C'est cela dont je vais essayer de vous parler ce soir, en sachant que je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est un droit particulier, donc il ne correspond pas à la vision que vous avez de la justice, très certainement. Bierjocks en a parlé un petit peu, même assez longuement. Il a insisté sur le fait que c'était une justice de protection, ce qui est exact. Une justice qui s'inscrit dans la durée, il faut du temps pour modifier les comportements, car ce qui est au cœur du métier du juge, surtout du juge qui intervient au pénal et encore plus du juge des enfants, c'est essayer de répondre à la question, qu'est-ce qui modifie le comportement humain? Un jeune, eh bien, lui aussi, a sa vie, sa trajectoire, qu'est-ce qui va l'amener à changer et arrêter ses actes de délinquance? Et ça, c'est au cœur de notre métier, de tous les juges, mais particulièrement le juge des enfants. Et le mineur, il a une trajectoire, bien sûr, sa vie qui a commencé, bien sûr, quand il était tout petit. Il a entre 15, que vous disiez, 15, 16, 17 ans. Ils sont les plus nombreux, c'est 15, 16 ans. Ils sont en échec scolaire, le plus souvent. Ils sont issus de familles monoparentales, issus d'immigration, cumulant les difficultés sociales, 12 à 14 dans un F3, F4, souvent dehors, vivant dans des groupes de jeunes, ils sont rarement seuls, ils ont internet, ils sont presque comme tous les jeunes, mais si ce n'est que ils sont quand même plus délinquants que d'autres. Alors, je vais vous parler de ces jeunes en sachant que sur, mettons, 100% de jeunes, vous en avez 65% qui ne posent pas de grandes difficultés. Ils vont être déférés une fois devant nous, en tout cas on va les connaître une première fois, et on n'y reverra plus. Pour 65% d'entre eux, la justice est efficace du premier coup, dès la première comparution. Ce ne sont pas des jeunes qui ont commis une infraction pour la première fois. En général, ils sont passés devant le parquet, et le parquet a fait un rappel à la loi ou une petite admonestation. Enfin, en tout cas, il a convoqué le mineur, ses parents, et il donne un premier avertissement. Et c'est lorsqu'il recommence que le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, renvoie ce jeune et sa famille devant le juge des enfants, ou encore pour une première fois pour des faits graves. Dans ce cas-là, ces jeunes arrivent devant le juge des enfants, et là, on les voit une fois, et dans 65% des cas, on ne les revoit plus, ce qui est pas mal. Bon, donc ce n'est pas de ceux-là dont je vais vous parler, parce que ceux-là, finalement, ils ne nous posent pas de difficultés, puisque l'essentiel, c'est qu'ils ont modifié leur comportement grâce à leurs parents. Car les parents sont là, l'avocat est là, on est dans l'enceinte judiciaire, c'est-à-dire dans le tribunal, très solennel, un juge, ça impressionne le gamin, surtout lorsque, dans la plupart des cas, ces enfants sont passés en garde à vue. Vous savez, quand on commet une infraction, on est interpellé, on est amené au commissariat, et là, on a la police a un temps pour faire ses premiers interrogatoires, faire des premières investigations. Et pour les majeurs, il a schématiquement 48 heures renouvelables. Pour les mineurs, en général, c'est moins. Mais vous avez des mineurs qui passent une nuit en garde à vue. Bon. Donc, ça les frappe quand même. Hein. C'est pas rigolo, ça. Les parents sont convoqués au commissariat et ensuite, on les convoque devant le juge. Donc, il y a quand même un choc émotionnel qui est efficace, plus l'audience que l'on explique, la mise en scène, la loi est efficace. Ça, c'est 65%. Sur les 35%, c'est ça, oui, ça fait le compte, sur les 35%, il y a 20-25% de jeunes qui vont recommencer, mais soit de façon très espacée, soit qui vont recommencer sur des actes moins graves que la première fois, et bon an, mal an, on ne les reverra pas au bout de 2-3 fois, on ne les revoit plus. Donc, cela, on peut déployer des moyens, mais c'est efficace aussi. Donc, on arrive à peu près 10% des jeunes qui sont difficiles, pour lesquels, ça ne marche pas à tous les coups, et parfois, il faut beaucoup de temps, et parfois, on n'y arrive jamais. Donc, ceux-là, ils vont passer peut-être par la case prison. Donc, sur 10%, on a des multirécidivistes, et là, ce sont des jeunes qui ne sont pas comme ceux qui font partie des 65%. Ceux des 65% peuvent concerner votre enfant. N'importe quelle famille peut être confronté à un acte de délinquance d'un enfant. Un adolescent, vous savez, tout ne se maîtrise pas. Ils sont dans les expérimentations les premières fois. Ça peut arriver. Entraîné par un groupe, un petit joint en passage, monté sur un vélo ou un scooter ou un vélib qu'ils ont décroché pour le vélib. Ils montent sur un scooter volé. Ça arrive très vite, une affaire pénale. Mais dans des familles bien structurées, avec des parents présents, où on a le sens de la loi, eh bien, ceux-là, on ne les revoit pas. Tandis que mes 10% dont je vous parlais, ça, ce sont des jeunes qui ne bénéficient pas d'encadrement éducatif. Famille monoparentale, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et effectivement, ceux-là, nous n'arriverons pas forcément à arrêter la délinquance. Alors, vous me direz, mais alors qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Parce qu'effectivement, c'est là que l'enjeu est important. Eh bien, je reviens à mon propos de tout à l'heure. Je dis, mais le juge va chaque fois se demander, pour ces jeunes que l'on repère très vite, qu'est-ce qui va modifier leur comportement? Alors, il y a plusieurs critères. On pourrait dire, il y a la loi. La loi fait peur. Bon, cela, la loi ne leur fait pas peur, puisqu'ils continuent. Il y a la présence des parents. Ça, c'est un allié pour nous, le parent. Je dis « le » parce qu'ils sont généralement qu'un, c'est souvent la mère. Mais les parents sont des interlocuteurs privilégiés. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, bien sûr, ce que l'on sait, c'est qu'il faut du temps pour avoir un impact sur le comportement d'un enfant ou d'un adulte. Et il faut, si possible, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut que lors d'une audience, ça c'est pour le travail du juge, il faut que le jeune soit impliqué, se sente concerné par ce qu'on lui dit. Il faut pouvoir mobiliser une certaine charge émotionnelle, le rendre concerné et émotionnellement concerné par ce qui se passe. Vous allez voir pourquoi. Et puis, ce que l'on sait, grâce aux préventologues, pour que quelqu'un s'en sorte et un autre regard sur son propre parcours, sur sa vie, sur ses capacités, il faut valoriser les compétences. Il va falloir faire en sorte que ce jeune ne soit pas que dans un processus d'échec, mais plutôt dans un processus de réussite. Car ça va changer son regard sur ce qu'il est, ça va changer le regard des parents sur les compétences de son enfant, et ça va changer le regard de la société. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de nos audiences, on va, sur la durée bien sûr, hein, mais dès la première audience, on va faire en sorte de pouvoir renvoyer une image qui n'est pas trop négative de ce jeune. Et toute l'action du juge, des enfants, à travers les mois qui se succéderont, oscillera entre le souci de la répression pour protéger nos concitoyens et souvent d'autres enfants qui sont victimes de ces enfants délinquants, et le souci de les porter vers le haut, c'est-à-dire de leur faire confiance, de les remettre dans le droit chemin, en leur redonnant confiance et en les mettant dans des processus de réussite. Est-ce que c'est clair ça ? Vous comprenez ? Il y a ces deux actions de la justice. La répression et parfois la répression pour avoir le souci d'arrêter le processus de délinquance et protéger les victimes, et puis avoir le souci, bien sûr, d'aider, d'accompagner, éduquer ces mineurs. Donc, pour être plus concret, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous raconter une audience, pour que vous compreniez, parce que je ne peux pas vous parler de tout comme ça, de façon théorique. Vous allez comprendre le rôle de chaque acteur. Donc, nous avons, supposons, ce n'est pas un hasard, une famille d'origine malienne, par exemple. Ça pourrait être sénégalaise. J'ai été chez les enfants dans le 20e arrondissement. Le 18, 19, 20e arrondissement à Paris, ce sont les arrondissements les plus délinquants de Paris. Donc j'étais dans le 20e Nord. Vous voyez, à Paris, nous sommes 12 juges des enfants. Entre le 18, 19, 20e, on est 6 juges pour 3 arrondissements, pour vous montrer qu'il y a de l'activité. Bon. Donc nous avons notre petit Africain qui a, on va dire, qui a 16 ans, c'est l'âge moyen, 15 ans, 16 ans. Il est d'origine, on va dire, sénégalaise. Je connais bien le Sénégal, c'est mieux. Donc il est sénégalais et il a commis un acte très ordinaire, une extorsion. Une extorsion, c'est-à-dire qu'on est à 1, 2 ou 3, on s'en prend à un enfant un peu plus, les Sénégalais sont très grands, un peu plus petit, en âge ou moins costaud. Il est plutôt seul, c'est le profil de la victime, à côté de l'école en général, il a un portable ou il a quelque chose de sympathique. Et le groupe d'adolescents, le jeune dont je vous parle, va s'adresser à ce garçon, ils sont 3 ou 4 contre 1, et ils vont lui dire « donne-moi ton portable ». On n'a pas besoin de violence, le gamin comprend tout de suite que s'il vaut mieux le donner, sinon il va s'en ramasser une et il vaut mieux le donner. Donc il va donner son portable, voilà, et il est interpellé tout de suite après, en flagrant délit. Donc ce jeune Africain et ses deux copains, on va dire qu'ils sont 3, passent en garde à vue, il faut un petit temps peut-être ils sont gardés la nuit, hein. Le lendemain, on va dire qu'ils sont connus, par définition, les multirécidivistes, hein, dans mon histoire. Il est connu, donc le parquet, qui est informé à tout moment de toute arrestation sur un mineur, va exiger qu'on le défère, c'est-à-dire qu'on va demander à la police de l'amener pour le présenter devant un juge des enfants. À Paris, il y a à peu près 12 à 14 déferments par jour, une activité délinquante importante, et puis une réaction pénale importante aussi. Donc on fait venir le gamin qui arrive et puis on l'amène devant un juge des enfants. C'est moi. Bon. Donc entre-temps, avant que je le fasse rentrer dans mon cabinet, il y a un service éducatif qui est composé d'éducateurs, parfois d'assistantes sociales, qui vont faire un petit bilan de la situation de cet enfant avant qu'il ne m'ait présenté. J'aurai un rapport sur sa situation scolaire, sa situation familiale. Les éducateurs auront convoqué les parents qui seront dehors, derrière ma porte, ils attendront, et ils essaient de rassembler le maximum d'informations pour m'éclairer, pour savoir à qui j'ai affaire. J'ai le casier judiciaire, j'ai les réquisitions du parquet, puis j'ai la procédure. Et là, je fais rentrer mon jeune, ainsi que les parents. Il y a l'avocat qui est présent, et il y a la greffière dans le bureau, Et il peut y avoir un éducateur qui accompagne, mais pas nécessairement. Et là, on va faire dans un premier temps une présentation des faits. J'explique ce qu'on lui reproche. Et en général, ils reconnaissent en général. Bon, enfin, peu importe, il ne reconnaît pas, mais il reconnaîtra. En général, les mineurs reconnaissent. Et puis, à un moment donné, je dis, pourquoi commettez-vous ces actes de délinquance ? Est-ce que vous avez besoin d'un portable ? Je connais la réponse d'avance, c'est évident qu'il n'en a pas besoin. Vous avez besoin de ce portable ? En plus, à trois, qu'est-ce que vous alliez en faire ? Bon, alors il répond plus ou moins. Et je lui dis, mais voyons, savez-vous pourquoi vos parents sont en France ? Pourquoi ont-ils quitté leur pays ? Alors là, on a déjà une émotion, parce que parler des parents, c'est très douloureux. Très difficile. Alors, ils ne savent pas. Alors, j'attends un moment. Et je leur dis, mais voyons, ils sont venus en France. Alors, en général, ils me répondent, mais pas toujours. Peu importe la réponse. Ce que je leur dis, c'est que vos parents sont venus en France. Ils ont eu le courage de quitter leur pays, leur famille, leurs amis, leurs attaches, pour venir en France, qui est un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils maîtrisent la langue quand ils viennent du Sénégal. Bon, mais c'était un saut vers l'inconnu. Et ça pour offrir à leurs enfants des meilleures chances d'éducation, pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école, d'être soignés, d'être éduqués. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est ce que vos parents, ils sont contents d'être là ? Vous croyez que vos parents sont des honnêtes gens ? Alors j'explique qu'ils sont honnêtes, courageux, extraordinaires, bon, ils sont intelligents pour pouvoir s'adapter. Et je leur dis, ben voilà, vous êtes là. Et vous obligez à vos parents de vous accompagner au tribunal. Je sais combien ils sont honnêtes, vos parents, mais ils ont honte d'être là. Et alors là, il y a une charge émotionnelle très forte. Les enfants sont grands, ne peuvent plus parler. Et je ne cherche pas à faire pleurer, c'est pas ça. Mais les faire, leur faire comprendre que j'ai une excellente relation avec leurs parents, j'ai un regard positif sur leurs parents, qui n'imaginent pas que je méprise les parents parce qu'ils sont africains. Il faut dire les choses. Donc je leur dis, ce sont des parents formidables. Et du coup, les parents, qui souvent sont dépossédés de leur l'éducation et de leur autorité, hein, les enfants, ces gaillards, ils font ce qu'ils veulent. Ils sortent la nuit, ils vont pas à l'école, ils font ce qu'ils veulent. Et je leur dis, mais voyez, vos parents, ils ont raison quand ils vous demandent de rentrer le soir. Est-ce que vous mangez à la maison ? Alors, c'est souvent non. Est-ce que vous aidez votre mère ? Parce que le père n'est pas là, je râle. Vous aidez votre mère à faire la cuisine ? Non. Mais je lui dis, mais, et pourquoi donc ? Votre maman, elle travaille. Ce sont souvent des femmes qui se lèvent à 6h du matin pour aller faire les bureaux dans nos administrations et qui repartent le soir pour faire les ménages. Et donc, elles ne sont pas là ni au départ des enfants à l'école, ni au retour des enfants. Donc, j'ai dit au plus grand, j'ai dit, mais écoutez, au lieu de courir avec les copains, vous devriez être là pour aider votre mère, faire des courses, faire ce que vous aimez, mais discuter de ça avec votre mère. Et puis, elle a raison de vous interdire de sortir. Et là, je fais alliance avec les parents pour voir avec eux qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Alors les parents vont me dire, ben oui, il n'écoute pas, ou dès qu'il y a les copains, je ne peux plus le tenir. Quand il est à la maison, c'est un très gentil garçon, mais dès que j'ai le dos tourné, dès qu'il est ailleurs, c'est fini, je ne maîtrise plus. Donc, lors de cette première audience, je vais montrer à l'enfant qu'on raisonne de façon transparente entre adultes responsables. Les parents font alliance, et je fais alliance avec eux, pour poser des exigences éducatives. Et je dis aux parents, je dis, bon, écoutez, alors je demande à l'enfant, bon, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'a dit votre mère ? Est-ce qu'on peut essayer de modifier votre comportement qui n'est pas acceptable ? Est-ce que vous pensez que l'on peut exiger de vous que vous rentriez à 10h du soir, par exemple, et que vous alliez à tel ou tel endroit ? Voilà. Bon, après, il faut voir si les consommateurs de cannabis, tout ça, ces sujets sont abordés. Comment vous avez votre argent ? Comment vous financez le kebab ? Comment vous avez acheté vos Nike ou je ne sais quel vêtement ou chaussures extraordinaires ? Bon. Voyez, on aborde ces questions et les parents, c'est eux-mêmes qui vont répondre à mes questions. Et le gamin également. Et ça crée quelque chose de particulier, parce que les parents vont se sentir réinvestis de leur autorité. C'est ça que je cherche, moi, parce que moi, je ne vais pas être derrière le gosse, ni les éducateurs en permanence. C'est aux parents d'être restaurés dans leur autorité. C'est eux qui doivent être entendus. Alors, ça ne marche pas toujours, mais enfin, quand même, ça peut avoir un impact. Et puis, en fonction des informations que l'on me donne, je vais demander à des éducateurs de suivre le mineur, c'est-à-dire les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont convoquer le mineur après l'audience. Convoquer le mineur, ses parents, pour faire un point sur sa situation scolaire, familiale, sanitaire, revoir si la question de l'argent de poche, du cannabis, les copains, les phénomènes de bande, il y a des bandes de quartier. On essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe pour essayer de l'amener à réfléchir sur son comportement. Est-ce que c'est un comportement qui s'inscrit dans un avenir positif pour lui? Voyez, est-ce que c'est son intérêt? On va essayer de le rescolariser lorsqu'il n'est pas scolarisé. S'il est vraiment trop éloigné de la scolarité, on va essayer de lui proposer des ateliers de remobilisation. Alors là, il y a tout ce qu'on peut imaginer, dont vous avez peut-être connaissance. Ce sont les ateliers de remobilisation, ateliers d'insertion, formation qualifiante, apprentissage. On a des réseaux d'employeurs, mais on en a besoin de chaque fois davantage. Mais on essaye d'être en relation avec toutes les administrations, toutes les ressources d'un quartier, parce qu'il faut que ce jeune puisse non seulement réapprendre une vie sociale, se lever le matin, se coucher le soir, il faut qu'il puisse fréquenter les associations de son quartier. Vous voyez, avoir une vie sociale d'un enfant de son âge. Et au fur et à mesure qu'on essaye de travailler ce type de relation aux autres, qu'il ne soit pas dans la violence, qu'il ne soit pas dans la consommation massive de cannabis, eh bien on va le réinscrire dans une relation sociale qui va permettre de le construire et de petit à petit d'élaborer un projet qui va l'amener à s'inscrire dans le temps, dans l'avenir. Souvent, nos gamins, ils ne s'inscrivent pas dans le temps. C'est de l'immédiateté. Je passe à l'acte, j'ai envie d'un truc, un kebab, une chaussure, et hop, on casse, on vole, et après on revend. Donc c'est un peu ça le travail du juge d'enfant, sachant que ce juge d'enfant a nombreux moyens. Bon, on peut toujours se plaindre, mais quand même, on a des services éducatifs, c'est-à-dire des éducateurs à la fois de la protection judiciaire de la jeunesse, ce sont des éducateurs du secteur public qui relèvent du ministère de la Justice, et puis on a des éducateurs du secteur associatif qui peuvent intervenir. Bon, c'est plutôt en matière pénale le secteur public. Et puis, le ministère de la Justice dispose aussi de foyers, de familles d'accueil, de toutes sortes de foyers, des foyers très ouverts, des foyers fermés, vous avez dû entendre parler des centres éducatifs fermés, des centres de rupture, des centres de jour où on propose des activités de formation à des jeunes. Alors c'est vrai que depuis ces dernières années, ces moyens se sont un peu réduits. Bien sûr, on est en situation de récession, de diminution de moyens, mais quand même... On a besoin, pour accompagner ces jeunes, on a besoin de moyens humains essentiellement. Donc là, il y a une réduction du nombre d'éducateurs. Et puis, lorsque ce mineur n'entend pas ce que l'on dit, eh bien, ou lorsqu'il continue, c'est malgré le fait qu'il entende, mais il continue quand même sa délinquance, je pense surtout au trafic, hein, il y a du trafic partout dans Paris, mais surtout dans certains arrondissements, dans certaines coursives, il va falloir l'éloigner. Donc on voit avec les parents, soit on l'éloigne, soit il peut revenir un peu au pays, c'est la famille qui en décide. Hein. Mais ça, je dis aux parents, moi, il faut peut-être l'envoyer au pays parce que la prochaine fois, il va aller en prison. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Donc ils partent parfois quelques mois au Sénégal, ils reviennent. Bon. Ça, en général, je ne communique pas là-dessus. Il ne faut pas qu'on puisse dire que les juges renvoient les enfants au pays. Mais c'est les parents qui prennent la décision quand je leur explique que la fois suivante, ils vont aller en prison et qu'il vaut mieux un petit dépaysement. Sinon, lorsqu'on a affaire à des enfants qui n'ont pas d'origine étrangère, eh bien, je dis aux parents, voyez si vous n'avez pas un cousin, des amis qui puissent accueillir votre enfant en Auvergne, au fin fond de la Bretagne, pour l'éloigner de ses copains. Ça peut être une solution. Et puis, quand il n'y a pas de solution, il y a les foyers. Les foyers, et quand il est vraiment multirécidiviste et on estime qu'il se fiche de tout, on va chercher des lieux d'enfermement. Soit des centres fermés, soit la prison. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même protéger, j'en parlais tout à l'heure, nos concitoyens et surtout les autres enfants. Parce que vous avez des jeunes qui peuvent être à 30, 40 infractions. Hein, ils sortent du cabinet, ils recommencent. Alors là, je dis non, ça ne peut pas durer. Il faut avoir de l'empathie, mais il faut quand même être lucide. Car notre devoir est aussi de protéger tous les jeunes. Bon. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite, très important pourtant, et qui participe de la spécificité de la justice des mineurs, c'est le fait que le juge des enfants est compétent en matière pénale et en matière civile, en matière d'assistance éducative, c'est-à-dire qu'on intervient pour les enfants en danger. Alors vous comprenez que c'est assez intéressant parce que un juge d'enfant est saisi par voie de signalement des services sociaux ou de toute personne, la famille. N'importe qui peut nous signaler des situations d'enfants en danger, des enfants entre 0 et 18 ans. Selon l'âge, les situations ne sont pas les mêmes. Les tout petits, c'est que les parents sont incapables de les protéger, les nourrir, les soigner. Et puis à 17 ans, c'est autre chose, c'est plus le même problème. On peut être, un mineur de 17 ans peut se mettre en danger par ses fréquentations, la drogue, tenter le suicide, toutes sortes de choses. Internet, vous avez tellement de choses différentes. Un adolescent qui ne sort plus de chez lui, il est rivé à son ordinateur, il est dans une addiction qui n'est pas celle au produit, mais aussi nocive que l'addiction au cannabis. Bon. Donc on intervient sur toutes sortes de choses, et notre souci, c'est essayer de modifier la relation entre l'enfant et sa famille, quand on est sur des situations d'enfants en danger. Et si on intervient en matière d'enfance maltraitée ou d'enfance en difficulté, en situation de danger, c'est qu'on constate que nos mineurs délinquants, les 10% dont je vous parle, sont le plus souvent, quasiment toujours, des mineurs qui ont été en danger petits, qui ont des trajectoires de vie émaillées de ruptures, de maltraitances, de violences, de décès. Pierre-Jacques, vous parlez des pères qui sont absents. Vous avez souvent dans ces familles des décès à répétition. Le père, un frère, on ne sait pas, c'est comme ça. La maladie, alors souvent des gens qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas, il y a beaucoup de décès. Donc ce sont des enfants qui ont cumulé beaucoup de ruptures, qui ont été en échec scolaire très jeunes. Tout ça, accumulation de difficultés sociales et parfois de santé. Et quand ils grandissent, ils vont, on va le découvrir délinquant, ou alors on les connaît et on va se rendre compte qu'ils vont verser dans la délinquance. Donc la compétence de ce juge qui intervient au pénal, c'est important qu'il ait aussi une compétence sur les questions d'enfants en danger, puisque parfois ce sont les mêmes, pas toujours bien sûr, mais sur les multirécidivistes, ce sont des jeunes que n'ont pas connus les juges enfants à tort, parce qu'on n'a pas été saisi, ou pour lesquels on a été saisi et ils sont quand même délinquants. Ça arrive quand même. Et puis il y en a d'autres qui sont connus comme enfants en danger qui ne seront jamais délinquants, il y a tous les cas de figure. Donc c'est la raison pour laquelle cette justice est particulière, c'est le même juge qui intervient en matière pénale et en matière d'enfance en danger, parce que c'est la même connaissance des jeunes, c'est la même mobilisation des techniques de travail, techniques d'entretien, d'approche des problèmes, d'analyse des situations, travail dans la durée, et puis on a affaire aux mêmes acteurs, on a affaire aux mêmes éducateurs. L'éducateur en milieu ouvert, c'est-à-dire que les éducateurs vont dans les familles, ou éducateurs qui interviennent dans les foyers. Ce sont les mêmes structures, les mêmes idées, les mêmes façons de travailler. Il y a des petites particularités au pénal, mais globalement c'est pareil. Alors pour vous parler de cette réforme, parce qu'il faut quand même en parler, c'était difficile de vous parler de la réforme sans vous parler de ce qu'est cette justice, parce que sinon ça tombe un peu à côté. Alors rapidement, cette réforme pénale des mineurs, on la souhaite, alors qu'on est très attaché à l'ordonnance de 45. Mais à force de la réformer, de la modifier, on a connu 37 modifications de l'ordonnance de 1945, cette loi, elle n'est plus lisible pour le mineur et sa famille. C'est illisible. Si vous êtes chez vous, si vous avez un code pénal, vous regardez. Ordonnance de 45, c'est un peu à la fin. Enfance délinquante, je vous assure que vous n'y comprendrez rien. Même nous, on a parfois un peu de mal. Donc, alors qu'on ne fait que ça. Donc c'est une loi qui mérite d'être réformée, réécrite. Et puis, il y a quelques points pour lesquels nous souhaitons cette réforme, c'est que ces dernières années, c'était le précédent gouvernement, le législateur a voté une loi qui prévoit, de façon très démagogique et idiote, l'instauration d'un tribunal correctionnel des mineurs. Ça crée un trouble dans les esprits. Tribunal correctionnel, ce terme-là est consacré au tribunal pour les majeurs. Quand on parle d'un mineur, on parle d'un tribunal pour enfants, où on a des assesseurs, vous pourriez être assesseur d'un tribunal pour enfants, qui sont nommés par le ministre de la Justice en fonction de leur intérêt pour la jeunesse. Dans ce tribunal correctionnel, on prévoit des mineurs, 3 juges, dont un seul spécialisé, c'est le juge des enfants. Les autres, ils n'y connaissent rien. Et c'est tellement idiot, c'est que quand on n'y connaît rien, les collègues, ils ont confiance dans les juges enfants. Du coup, ils n'apportent pas de plus-value. Ils se rangent sur la vie du juge enfant. Donc dans cette réforme, l'idée, c'était d'être plus sévère. Ce n'est pas plus sévère. Ça ne multiplie les audiences et ça n'apporte pas de plus-value. Et symboliquement, c'est idiot. Donc nous, on souhaite que ce soit supprimé parce que ça n'apporte rien. Il n'y a pas de sanction plus sévère pour autant. Ça, c'est le premier point. Et puis, nous avions soutenu un projet qui a été repris par le gouvernement, par le projet de Mme Taubira, qui s'appelle le projet de la césure pénale. Ça, c'est un peu technique, mais si je suis claire, vous comprendrez. La césure pénale, c'est le principe selon lequel on va, dans un premier temps, dans un délai très bref après les faits reprochés au mineur, dans un délai maximum de 2 mois, on va convoquer le mineur, sa famille et les victimes pour statuer sur la déclaration de culpabilité. C'est-à-dire qu'on va tout de suite dire, bien sûr après une audience, en présence d'un avocat toujours là, bon, on va déterminer si les faits pour lesquels il est déféré, si ces faits qui lui sont reprochés sont exacts ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'il a participé à l'exaction, à l'extorsion, pardon. Et si c'est le cas, en général, il y a des éléments. Eh bien, on va le déclarer coupable et immédiatement, on va prévoir l'indemnisation de la victime. Donc, c'est bien ça. Au lieu d'attendre des mois, parfois des années, la victime va être tout de suite indemnisée. Il faut savoir que les parents sont civilement responsables et c'est l'assurance des parents qui paye automatiquement, assure le remboursement de la victime. Donc, c'est une bonne chose. Et après cette première audience, on se donne 6 mois, maximum 1 an, pour voir l'évolution du mineur. Et c'est en fonction de son évolution, bonne ou mauvaise, et on espère bonne, que l'on va prononcer soit une sanction éducative, une mesure éducative, soit une sanction pénale. S'il a évolué favorablement, eh bien on va prendre une mesure éducative, un avertissement, où on va prévoir qu'il continue à être suivi par des éducateurs, où on va maintenir son placement. Si on voit que pendant cette période de 6 mois, non seulement il ne s'est pas amendé, mais en plus il a recommencé les faits plus graves, là, la sanction, ce sera la prison, par exemple, ou un centre fermé. Donc, c'est en cela que c'est différent d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On met en examen, et pendant des mois et des mois, on peut assurer un suivi du mineur, et il va être jugé ultérieurement. Et la victime sera entendue ultérieurement. On pourrait me dire, c'est presque pareil. Si ce n'est que, c'est là où c'est un peu technique, si on est attaché à cette césure pénale, c'est parce que en 2011, le Conseil constitutionnel, soucieux de se conformer à la Convention européenne des droits de l'enfant et Convention européenne des droits de l'homme, a décidé, sans qu'on lui demande d'ailleurs, qu'on ne pouvait plus maintenir un même juge en matière pénale au moment de l'instruction et au moment du jugement. Aujourd'hui, c'est le même juge des enfants qui est toujours le même tout le long de la procédure, dès le déferrement, pendant la période d'instruction, au moment du jugement et au moment de l'application de la peine. C'est-à-dire les modalités d'exécution de la peine, c'est le même juge. Et ça, au nom de la spécialité du juge. On se dit, il vaut mieux que ce jeune soit jugé par le juge qu'il connaît. Or, avec la décision du Conseil constitutionnel, on saucissonne notre intervention. Car le Conseil constitutionnel nous dit, au nom de l'impartialité du juge, eh bien, il ne faut pas que ce soit le même juge qui connaisse le mineur en début de procédure et que ce soit le même il faut que ce soit un autre juge qui le juge. Donc, pour éviter cet écueil qui nous embête beaucoup, eh bien, on fait l'inverse. On le juge d'abord et après, on assure le suivi. Et du coup, ça peut être le même juge des enfants qui va suivre son mineur tout au long de la procédure. C'est en cela qu'on est très, très demandeur de cette réforme. C'est un peu une pirouette de procédure, vous voyez, ça nous arrange. Bon, après, les autres données sont un peu techniques. Je pense qu'il faut peut-être arrêter là pour vous donner la possibilité de poser des questions sur cette justice. Mais on n'a pas tout dit, c'est évident. Mais on ne peut pas parler de tout. Voilà.
Je fais des bêtises. Donc merci beaucoup pour vous nous avez beaucoup. On n'entend plus. Attendez, j'ai cassé le micro.
Aïe, aïe. Et là, si ça marche à nouveau.
Excusez-moi. Donc, avant, quand on s'est rencontrés là, juste avant qu'on ait commencé ce débat, je vous posais la question de savoir si vous aviez vu, j'ai pas eu le temps de vous la poser, le film La tête haute, J'espère que quelques-uns parmi vous l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas vu, après cette soirée, je vous encourage vivement à y aller parce que vous comprendrez encore mieux tout ce qui s'est dit ce soir. Donc, est-ce que dans ce film, on explique bien qu'il y a beaucoup d'outils mis à la disposition du juge pour, en effet, comme vous l'expliquez, s'adapter à chaque situation? Et la situation, elle dure au moins sur une dizaine d'années. Cinq ans.
Puisque le jeune il a 15 ans quand on est uniquement pénal. Ah oui, effectivement, ça peut être long lorsqu'on commence à intervenir en protection de l'enfant en danger. Là, ça peut être un nourrisson et puis on peut le suivre, mais en général, un suivi c'est moins long. Au pénal, quand c'est que le pénal c'est 2-3 ans maximum, et puis quand c'est en assistance éducative, ça dépend des difficultés de la famille et du nombre d'enfants, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'ai vu ce film.
Oui. Oui.
Oui, je ne sais pas si ça marche.
Peut-être que j'étais.
J'ai trouvé ce film très bien, très représentatif. Évidemment, il y a beaucoup plus d'enfants plus simples et il y en a quelques-uns beaucoup plus compliqués. Mais c'est quand même, ce film est très bien. L'actrice principale, qui est une célèbre vedette, au début, elle flotte dans son rôle, on se dit elle n'y comprend rien. Et puis alors, quand ça avance, elle devient formidable. On a tout compris. Comme Madame Ourcade, en l'écoutant, je me régalais. Vous comprenez quand je vous disais que j'ai eu la chance d'être en stage auprès d'elle il y a quelques années. C'est vraiment le métier très particulier qu'elle a décrit de façon merveilleuse. Elle n'a pas décrit les violences.
Non, non.
Il y a quand même parfois des grandes violences, mm-hmm. et des violences. Et le film dont vous parlez, il y a beaucoup de violences. Oui. À cet égard, il est très intéressant.
Oui. Donc, c'est un très bon. Il est très représentatif des jeunes dont nous nous occupons, bien sûr, et du travail éducatif et des lieux d'accueil. C'est un film assez formidable et heureusement, comme dit Pierre Jox, ils ne sont pas tous comme ça, parce que alors là, on n'y arriverait pas. Mais on en a dans un cabinet, peut-être une petite dizaine, comme ça. Mm. Et qui nous prennent beaucoup de temps, mais les autres aussi prennent du temps, parce que lorsqu'on est saisi de situations d'enfants en danger, il ne faut pas louper. Il faut savoir placer quand on pense que l'enfant est en danger de vie et de mort. Hein. C'est-à-dire, sur les tout-petits, le juge d'enfant doit être très très vigilant sur les tout-petits. Ils ne peuvent pas réclamer, ils ne peuvent pas vociférer. L'adolescent, lui, il se révolte, hein, ça ne dure pas longtemps quand ça ne va pas. Tandis qu'un tout-petit... Il peut y avoir des accidents, enfin des choses très graves, surtout qu'on a affaire à des gens cinglés. Hein. On a des gens malades sur un plan psychique. Donc, est-ce qu'il faut placer tous les enfants de parents dérangés? Non. Mais il faut arriver à sentir, pressentir le danger. Alors, heureusement, il y a des travailleurs sociaux qui sont très compétents, hein, qui alertent. Si nous ne sommes pas alertés, on peut passer à côté. Mais normalement, on doit être alerté.
Et ce qui est frappant dans ce film, et puisque c'est ce que vous avez dit aussi, c'est cette absence de figure paternelle. Soit les pères sont morts, soit ils sont absents, ils ont disparu. En tout cas, il n'y a pas de figure paternelle. Comment, dans vos expériences, où est-ce qu'on peut retrouver pour ces jeunes ces figures paternelles? Qui peut les représenter? Comment on peut... Qu'est-ce qu'elle peut faire, la société, là-dessus?
Je vous laisse la parole. Moi, je dirais que parfois, il y a des pères, mais il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Parce que vous avez des pères violents, des pères absents, qui ne reconnaissent pas leur enfant au sens de... qui s'en occupent pas, qui s'en foutent complètement, qui sont jamais là quand il faut, et quand ils sont là, ils disent des conneries, juste ce qu'il faut pas dire. Pas l'once d'une psychologie et pas beaucoup d'amour, hein, pour certains. Alors, je veux pas généraliser, il y a des pères formidables et des mères épouvantables. Nous, on ne voit que ce qui va pas, bien sûr, hein, donc forcément, je vous dis ce qui va pas, bon... Alors comment on peut prévoir des substituts paternels? Dans une famille, il peut y avoir les grands-parents. Les grands-parents peuvent jouer un rôle formidable. Puis il y a les oncles, au sein de la famille, il y a d'autres figures paternelles que le père génétique. Et puis il peut y avoir des amis, et puis il peut y avoir la société. Hein, et les rencontres, la société, les adultes peuvent jouer un rôle dans un quartier, dans une association. À l'école, les professeurs jouent des rôles parfois extraordinaires. Ils sont pas substituts parentaux, mais ils font figure d'autorité. Alors, on ne peut pas se substituer à un père, mais une figure d'autorité, on en trouve dans notre société quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Beaucoup d'éducateurs. Les éducateurs, c'est un métier spécialisé, avec une formation et en plus une expérience acquise. Beaucoup d'éducateurs, hommes ou femmes d'ailleurs, jouent un rôle, non pas de substitut paternel, mais de référent. C'est pas le juge qui a un pouvoir de sanction. C'est pas l'avocat qu'on voit dans les mauvaises circonstances. C'est pas le policier qui interroge. L'éducateur ou l'éducatrice, quelqu'un qui... Souvent, ceux des éducateurs et des éducatrices ont vu 10 fois plus de temps l'adolescent que le juge ou l'avocat. Ils l'ont vu 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures. Donc ils jouent un rôle très important, c'est un métier magnifique. Alors c'est vrai que les avocats peuvent jouer un rôle, et surtout les avocats plus que les avocates. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, comme avocat débutant mais âgé, j'ai un impact terrible sur des garçons de 15, 16, 17 ans. Se faire engueuler par leur avocat, ça leur fait un bien fou. Et c'est très particulier, c'est une relation très spéciale. Parce que dans un tribunal pour enfants, les jeunes très vite ont compris qu'ils ne sont pas là uniquement devant un procureur qui va les envoyer, qui veut demander qu'on le mette en prison, un juge qui va les envoyer en prison, et un avocat qui va dire « mais non, il n'a rien fait, c'est un petit charmant, etc. » Il y a une espèce de combinaison entre l'avocat qui connaît plus ou moins le garçon, l'éducateur ou l'éducatrice qui le connaît généralement mieux, le juge qui a le plus d'expérience, et le substitut qui sait bien que le but, c'est pas forcément de l'envoyer en prison. Donc c'est une justice. La justice restaurative, qui est un modèle dont on s'inspire dans les pays anglo-saxons, qui est tourné plutôt vers le rétablissement de la situation avant l'infraction, est une justice qui est très pratiquée dans la justice des mineurs. Deuxièmement, il y a aussi le fait, on n'en a pas parlé, mais beaucoup de violences commises par des garçons sont des violences de groupe. C'est-à-dire que après les faits, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Je raconte dans mon livre une histoire que j'ai vue aux assises des mineurs de Bobigny, qui était une scène absolument étonnante. Il y avait 6 garçons qui avaient commis 6 braquages dans des bijouteries de 6 communes autour de Bobigny, Aubervilliers, etc. Des petits braquages dans des petites bijouteries avec de la violence. Des vitres cassées, mais souvent pour faire plier le bijoutier ou ses employés, des coups, du sang, pas de mort, pas de blessures graves, mais quand même des... L'instruction criminelle avait duré presque 2 ans aux assises. Au moment où on arrive aux assises, c'est des assises spéciales. Il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas de public. Il y avait, si, des maires et des gendarmes. Parce qu'il y avait 6 garçons qui étaient quand même des gaillards. Et alors, 5 sur 6 avaient tout reconnu. Soit dès le début, soit en cours d'enquête, parce qu'ils avaient été confondus par des empreintes, par l'ADN, par des témoignages, etc. Sauf un. Et le dernier à être interrogé, la présidente des assises lui dit « Alors voilà, Sissoko, machin, vous avez été accusé de ceci, vous avez fait ça. » Il avait toujours nié. Et il dit « Oui, madame. » Alors la présidente dit « Bon, vous reconnaissez les faits ?»« Oui, madame. » Et puis tel jour... À Stins, vous avez attaqué la bijouterie, machin, vous avez frappé monsieur Intel, vous avez ça. Oui, madame. Et puis, il reconnaît tout ce qu'il avait nié pendant 18 mois. Alors la présidente lui dit, mais c'est très bien, parce que vous reconnaissez, donc vous vous rendez compte que c'était mal. Oui, madame. Et pourquoi vous l'avez nié pendant si longtemps? Mais c'est très bien de le reconnaître maintenant. Alors, ce grand garçon, c'était un grand gaillard. Un grand black comme ça, plus grand que moi, était devant la cour d'assises qui était là avec la présidente. Et derrière, il y avait une salle dans laquelle il n'y avait personne, sauf quelques gendarmes et quelques maires, dont sa mère. Et alors le garçon dit, ma maman m'a dit, à la cour d'assises, tu vas dire la vérité. Il s'est retourné vers sa maman. Le garçon, il avait 19 ans. Il se conduisait à la fois comme un enfant et en même temps comme... Alors là, ce n'est pas la figure paternelle. C'est le mélange de respect de sa mère, d'image de la loi, du cadre. Tout le monde a reconnu, tout le monde a dit, mais il vaut mieux reconnaître que nier. Et tout d'un coup, la cour d'assises, c'est en effet quelque chose de particulier puisqu'on recommence tout pour le jury. Et ça déclenche des choses, c'est ce que des flics m'avaient dit quand j'étais ministre de l'Intérieur, ils me disaient, les assises, c'est extraordinaire, on n'est jamais déçu, il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai, c'est un peu vrai dans le cabinet d'un juge des enfants, parce qu'on prend du temps, et donc il y a aussi ce phénomène de restitution, de retour à la vérité, et donc au réel.
Il y a beaucoup d'émotions aussi quand même hein, dans ces cabinets, hein, parce que les choses se disent, alors qu'elles ne se disent jamais à la maison. C'est pas forcément le plus important, c'est pas forcément de parler des faits, mais tout ce qui circule autour de l'acte. Hein, c'est-à-dire qu'on va être amené à dire des choses qu'on ne dit jamais en famille. Et on recueille ça, on se dit bon, parfois on est presque gênant d'être là. On se dit bon, hein, c'est, on se dit mais enfin, comment je vais recueillir cette parole? Bon, il faut en faire quelque chose, hein, forcément. Mais après, on est fait en sorte que ce soit eux qui s'approprient et qu'ils essaient d'analyser, de réagir. Parce que souvent, c'est des temps d'émotion forts. Hein. Mmh. Oui.
Donc, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous voulez poser quelques questions, des questions brèves, s'il vous plaît?
Là-bas, là-bas.
Tout au fond, oui. Je sais pas si... Voilà.
Ma maman m'a dit, tu vas dire la vérité.
C'est drôle.
Un mois et demi.
Ah oui, c'est drôle.
Voilà. J'aurais aimé savoir dans quel délai vous aviez les éléments sociaux utiles à l'audience de référence, de référement dont vous avez parlé, de déferment dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, voilà. Dans quel délai avez-vous les éléments sociaux utiles à l'audience de déferment, si j'ai bien suivi ce que vous présentiez? Et ces délais, selon vous, sont-ils satisfaisants?
C'est une bonne question, parce qu'effectivement, il faut distinguer le déferment. On est dans l'urgence. On va avoir ces informations entre le soir et le matin. Donc, dans les 12 heures, c'est au service éducatif d'appeler la famille, l'école, avoir le maximum d'informations sociales. C'est autre chose lorsqu'on juge le mineur. Là, on est sur l'urgence, les décisions à prendre en urgence. Quand on le juge, là, on a des mesures d'investigation qui s'échelonnent sur 6 mois. On va observer le comportement du mineur et de sa famille pendant 6 mois pour nous faire une évaluation très fine avec des équipes pluridisciplinaires, où on va analyser le comportement de l'enfant, sa personnalité, son histoire familiale. C'est très important, l'histoire des gens. On le comprend pour soi-même, mais c'est vrai pour ces jeunes aussi. Savoir de quelle famille il est issu, quelle est l'histoire de cette famille. Parce que par l'histoire de la famille, on comprend beaucoup de choses. Savoir quel est le statut des autres enfants. Est-ce qu'il y a un frère qui est en prison? Est-ce qu'il y a un enfant handicapé? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu une mort d'un enfant juste avant l'arrivée de cet enfant-là? Tout ça, c'est des rapports qui font 15 pages à peu près. Vous voyez, on est très informé pour ensuite se dire quelle va être la meilleure intervention pour tenter d'avoir un impact sur ce jeune et sur sa famille. Il va falloir remobiliser les parents, par exemple. Donc il y a un très bref temps pour recueillir les informations dans l'urgence. Par contre, quand on juge un mineur, là, on a des dossiers assez complets. Soit des mesures d'investigation, dont je vous parle, soit des mesures d'accompagnement éducatif, c'est-à-dire que les éducateurs ne vont pas faire ce travail d'analyse très pointue sur l'histoire familiale, le comportement de l'enfant, sa situation scolaire, mais uniquement vont l'accompagner pour voir quelles sont les ressources positives de cet enfant, par exemple. Voilà.
Est-ce que la réforme va dans le sens d'amélioration des délais du traitement de toutes ces...
Moi, je pense que c'est une amélioration parce qu'on va avoir un temps plus contraint. C'est-à-dire qu'on va avoir des mesures d'accompagnement de 6 mois renouvelables une fois, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Donc, ça peut être des mesures qui peuvent traîner 1 an, 2 ans, ça n'a plus de sens. Pour qu'une justice soit efficace, il faut intervenir très vite et pas trop longtemps. Il faut le revoir assez rapidement en audience. Il ne faut pas attendre des mois pour avoir une première réponse judiciaire. Et ensuite, il faut qu'il y ait un temps d'accompagnement de 6 mois, me paraît raisonnable, pour revoir la famille et le jeune, pour voir ce qu'il est devenu. Donc le temps est plus rythmé. Ça ne veut pas dire qu'il faut agir dans la précipitation, mais la loi donne un cadre d'intervention.
Oui. Que pensez-vous du fait que le débat parlementaire sur le projet de loi ne soit pas encore programmé? Semble-t-il, il a été repoussé. Est-ce que vous avez des informations en la matière?
Ah oui, mais ça nous agace énormément, on n'est pas d'accord du tout. C'est la raison pour laquelle on essaie d'interpeller la ministre, mais Mme Taubira, elle y tient à sa réforme. C'est le gouvernement qui semble un peu frileux, ou en tout cas qui a prévu d'autres lois, on ne sait pas ce qu'il en est. C'est la raison pour laquelle notre association a rédigé une motion pour réclamer le vote de cette loi. Donc on a une motion que j'ai d'ailleurs, si certains veulent la signer. Pour l'instant, j'ai 140 signatures, pas beaucoup de politiques, mais des grandes fédérations, grandes associations comme le SAMU Social, la FNARS, l'UNIOPS, l'UNAF, la FN3S, le groupe SOS. Vous voyez, des très grosses associations qui interviennent dans le domaine de la prévention, de l'insertion ou l'éducation. Donc au niveau des professionnels, on a une forte mobilisation. Mais mon souci, c'est aussi de toucher l'ensemble de la société civile pour que les personnes réfléchissent à ces sujets et ne soient pas trop vite embarquées vers un jugement rapide et souvent peu généreux sur ces mineurs.
Puis-je être moins diplomate que Madame la Présidente Ourcade? Le problème de ce projet de loi, c'est pas seulement que le débat parlementaire n'est pas fixé, c'est que le projet de loi n'est pas encore arrêté. Pour qu'un projet de loi soit un projet de loi, il faut que le texte ait été approuvé en Conseil des ministres. Après, il faut en effet, comme vous le dites, qu'il soit introduit au Parlement pour être discuté. On en est pour le moment au stade uniquement des études administratives, etc. Et c'est tout à fait choquant que ce projet de loi annoncé depuis 3 ans, attendu par tous les professionnels, ne soit même pas encore adopté. Et c'est tout à fait choquant que quelqu'un comme Christiane Taubira, qui a beaucoup travaillé là-dessus, comme dans d'autres domaines, soit finalement mise en cause dans une partie de l'opinion publique, comme si elle était responsable de ça, alors que c'est un retard gouvernemental qui... Alors, là aussi, Marie-Pierre Ourcade est aimable, diplomate, en disant une partie du gouvernement est frileux. Oui, c'est une image. Mais à mon avis, c'est un choix regrettable, parce que le droit pénal des mineurs, ce n'est pas seulement un droit pour la justice des mineurs. C'est en vérité un droit de prévention. C'est un droit de la prévention. C'est une justice qui est en grande partie préventive. Et c'est pour ça que c'est tout à fait fâcheux que ce projet soit retardé.